Laurent Colantonio, qui est maître de conférence à l'IUFM de Poitiers, spécialiste de l'Irlande, va nous parler de cette question, l'Irlande, un cas singulier dans le monde britannique, point d'interrogation.
Donc la question d'Irlande, où parfois on parle du problème irlandais, est souvent abordée dans l'historiographie, mais aussi dans les manuels que vous allez rencontrer, et dans le débat public aussi, sous l'angle des relations, on pourrait dire, bilatérales, anglo-irlandaise ou irlando-britannique, ça dépend. Depuis les années 1990, la perspective a en partie quand même évolué, en particulier à la faveur du renouvellement des approches et des travaux sur l'Empire britannique. Ainsi, si vous regardez les trois derniers volumes de l'Oxford History of the British Empire, vous verrez qu'ils comportent chacun un chapitre spécifiquement dédié à l'Irlande, dans un ouvrage sur l'Empire. Alors en replaçant le débat à l'échelle impériale, et plus seulement à celle du Royaume-Uni, en comparant avec d'autres territoires britanniques, un nombre croissant d'historiens a notamment reposé la question, la double question, on pourrait dire, de la place de l'Irlande et du statut des Irlandais dans ce monde britannique entendu au sens plus large, le plus large. Alors, tout de suite, je précise que s'intéresser aux liens multiples entre l'Irlande, la Grande-Bretagne et l'Empire, c'est s'engager sur un terrain délicat où la charge émotionnelle, comme les enjeux politiques et les tensions mémorielles sont toujours très, très présentes. Et en effet, l'Irlande n'est pas toujours ce pays merveilleux qui, unanimement, hier, fêtait les 250 ans de sa boisson nationale. Parfois, c'est beaucoup plus tendu. Les hommes du XIXe siècle, et plus récemment d'ailleurs les historiens qui ont investi donc, ce champ d'études particulier, ont souvent proposé des interprétations variées, certaines contradictoires, souvent à l'origine de très vives controverses historiographiques. Parmi les principales pommes de discorde, on peut en retenir trois sur lesquelles je reviendrai. D'abord, le choix, donc pour les historiens d'aujourd'hui, des critères retenus pour démontrer que l'Irlande est ou n'est pas une colonie. Ensuite, la place accordée dans leurs analyses au discours des contemporains, des hommes du XIXe siècle, notamment leur discours sur l'Irlande, sur l'Empire. Et enfin, l'interprétation du rôle joué par les Irlandais dans l'Empire, les Irlandais qui sont hors du Royaume-Uni, notamment lorsque ces colonisés se sont à leur tour faits colonisateurs. Deux questions qui n'ont de simple que la formulation ont principalement orienté ma réflexion. D'abord, l'Irlande au XIXe siècle, partenaire ou colonie de la Grande-Bretagne. Et puis la seconde, les Irlandais, victimes ou acteurs de l'impérialisme entre 1815 et 1920. Alors pour rendre compte de ce dossier un peu complexe, je propose dans un premier temps de présenter les principaux discours émis sur l'Irlande et l'Empire depuis le XIXe siècle. Ensuite, j'examinerai plus précisément trois terrains d'affrontement historiographique majeurs, un terrain plutôt politique, un autre plus économique et un plus culturel, qui rendent bien compte de l'ampleur des controverses provoquées par cette question de la place, singulière ou pas, de l'Irlande dans le monde britannique. Et puis je traiterai à part ce que j'appelais une quatrième dimension du débat, historiographiquement la plus neuve, qui est celle justement de la place des Irlandais dans l'Empire, à l'extérieur du Royaume-Uni. Alors il faut d'abord peut-être dire un mot de la situation de l'Irlande en amont de la période qui nous concerne, et ce serait un petit prélude. L'Irlande fut le théâtre d'une entreprise de colonisation, alors, au sens moderne du terme, par l'Angleterre à partir du règne d'Henri VIII qui rompt avec Rome en 1534, par vagues successives et surtout au XVIIe siècle essentiellement, la conquête militaire est allée de pair avec l'imposition de l'autorité politique et spirituelle des souverains. Les terres catholiques ont été confisquées, redistribuées à des colons anglais et écossais. Et au tournant du XVIIe et XVIIIe siècle, un arsenal législatif anti-catholique, les lois pénales, est venu parachever la soumission de l'Irlande. Les catholiques irlandais, qui représentaient donc 80% de la population de l'île, étaient devenus à ce moment-là des citoyens dépossédés et exclus de toute position de pouvoir. Alors la situation évolue à partir de 1801, qui est une date importante, même si un tout petit peu en amont de notre question, année de la création donc, du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande. Alors à partir de ce moment-là, institutionnellement, l'île est désormais intégrée au noyau central de l'Empire. Officiellement, il n'est plus question de parler de colonie. L'Irlande n'est plus une possession ou un royaume dépendant. En réalité, le partenariat entre égaux qui est annoncé n'a jamais véritablement été à l'ordre du jour et le statut de l'île n'a cessé de faire débat tout au long du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'en pensaient d'abord les contemporains ? Au cours du XIXe siècle, se situer l'Irlande au sein du monde britannique est un exercice incontournable pour les principaux acteurs de la vie politique sur l'île, qui se livrent à une véritable guerre des mots, au cours de laquelle chacun exprime sa vision du monde et précise ses objectifs, avec pour contrainte, finalement, un champ lexical à leur disposition, conventionnel, assez restreint, assez limité. Alors on peut distinguer trois principaux discours au XIXe siècle par les Irlandais sur leur pays et l'Empire. D'abord, le premier discours pourrait se résumer ainsi, l'Irlande est une colonie qui n'en porte pas le nom. C'est la position de la plupart des séparatistes irlandais qui dénoncent une union de façade masquant la perpétuation d'une situation de domination coloniale. Alors, deux mots sur ces séparatistes, qu'on appelle aussi parfois les nationalistes révolutionnaires, dans le cas irlandais. Hein. Ils se déclarent républicains, souvent anti-impérialistes, ce qui n'empêche pas certains d'entre eux, tels John Mitchell, d'être ouvertement esclavagistes. Ils poursuivent l'objectif donc d'extirper l'Irlande du joug colonial britannique et d'obtenir l'indépendance complète d'avec la couronne, par tous les moyens, notamment la lutte clandestine et armée. Si on essaie de faire une petite généalogie de ces mouvements, chronologiquement, en 1848, vous avez les confédérés irlandais qui tentent un soulèvement en juillet 1848, qui se termine rapidement, ça ne se passe pas très bien. Les Fenians, ensuite, en 1867, Fenians qui s'appelle aussi, vous pouvez trouver IRB, Irish Republican Brotherhood, c'est un peu le synonyme, qui sont aussi à la tête du soulèvement de Pâques 1916, beaucoup plus connu. Et puis bien sûr, le Sinn Féin, le premier Sinn Féin début du XXe siècle, qui mène la guerre d'indépendance entre 1919 et 1921. J'ajoute qu'à partir de la fin des années 60, donc dans le contexte particulier de la guerre civile en Irlande du Nord, les républicains de la province, que ce soit les hommes politiques, mais aussi les paramilitaires ou des artistes, des écrivains, se sont à leur tour largement approprié le thème de l'Irlande colonie pour qualifier le passé, mais aussi bien sûr pour décrire leur présent et justifier leur lutte. Alors ce discours républicain, ce n'est absolument pas l'unique discours nationaliste irlandais, et jusqu'en 1917, il est même plutôt minoritaire sur l'île, il faut bien avoir ça en tête, hein, au regard de la popularité du nationalisme constitutionnel qui, alors, au chapitre de ce qui le distingue des séparatistes, hein, entretient un tout autre rapport à l'Empire, et à la position de l'Irlande dans l'Empire. Ces nationalistes constitutionnels refusent en effet d'employer le terme colonie pour qualifier l'Irlande. Ils réclament par des voies légales et la pression populaire, mais sans recourir à la violence, une plus large autonomie. Self-government, plus large autonomie. Les deux mouvements principaux que vous devez peut-être connaître, le premier, c'est le mouvement pour l'abrogation de l'acte d'union, justement, qui dans les années 1830 et 1840 est mené par Daniel O'Connell, puis le mouvement pour le Home Rule, mené par Charles Stewart Parnell, puis John Redmond, entre les années 1870 et début des années 1910-1920. Ces mouvements revendiquent au minimum la fin de l'Union et le rétablissement de la souveraineté irlandaise pour les questions intérieures, c'est-à-dire le rétablissement du Parlement autonome de Dublin qui a sauté en même temps qu'au moment de l'acte d'Union. Mais à aucun moment ils ne revendiquent l'indépendance de l'Irlande. Hein. Le tout doit se passer, à leurs yeux, dans le cadre de l'Empire britannique et sans rupture avec la couronne. C'est là-dessus que c'est important. Un point commun à la plupart de ces nationalistes, toujours si on met à l'écart les séparatistes, hein, le point commun, c'est qu'ils conjuguent une double allégeance, pas facile pour nous de saisir cela souvent, à l'Empire et à la nation. Ils envisagent souvent l'Empire comme le cadre institutionnel le plus approprié à l'épanouissement d'une Irlande souveraine. Ils réclament parfois une réforme de l'Empire, mais certainement pas une disparition de l'Empire. Il y a bien compatibilité entre plusieurs identifications au premier abord peu conciliables. O'Connell, en particulier, dans ses nombreux discours, je n'ai pas le temps de vous citer le passage, aspire à élever l'Irlande au rang de l'Angleterre dans la hiérarchie impériale, d'où son refus catégorique de considérer l'Irlande comme une colonie. Alors, il y a un troisième discours à l'époque, hein, qui est dominant, enfin qui est important aussi. C'est le discours d'un groupe qui refuse toute référence à la dimension coloniale de l'Irlande, c'est le discours des unionistes. Alors, les unionistes se situent, sur le prisme politique, si vous voulez, à l'opposé des deux précédents discours. Ils prônent le statu quo institutionnel, le respect de l'Union, pas d'autonomie, pas de séparation. Et il s'agit essentiellement, évidemment, des protestants du nord-est de l'île, qui sont plus ou moins descendants des colons du XVIIe siècle, pour lesquels le maintien du Royaume-Uni apparaît comme le seul moyen de préserver ce qui leur reste de privilèges sur l'île. L'identité, cette identité unioniste irlandaise, qui a été récemment beaucoup travaillée, et vous verrez quelques références dans la bibliographie, s'est construite autour d'un ultra-loyalisme à la couronne, au protestantisme et à l'Empire aussi. Pour les unionistes, revendiquer une place au sein du monde impérial britannique, c'est signifier leur attachement à la civilisation anglaise, c'est aussi affirmer leur fierté d'être britannique, mais c'est certainement pas reconnaître une quelconque forme de suggestion coloniale à un pouvoir extérieur, supérieur ou extérieur qui serait anglais. Alors, à côté de ces trois discours qui étaient en même temps au XIXe siècle, qu'on pouvait trouver, aujourd'hui, vous avez aussi deux approches historiennes qui divergent et qui reprennent en partie certains aspects de ce discours nationaliste-unioniste. Vous avez d'abord une perspective qui réaffirme la dimension coloniale de l'Irlande. C'est celle développée depuis les années 1980-90 par des chercheurs irlandais, critiques littéraires, puis historiens, qui se sont inspirés de l'approche postcoloniale dont on a pas mal parlé depuis ce matin, pour réaffirmer la dimension coloniale du passé irlandais et mettre au jour les multiples traces de ce passé dans la société actuelle. Quelques noms, peut-être que vous rencontrerez, Declan Kibbird, David Lloyd, et surtout, alors là c'est du gaélique, alors c'est difficile à prononcer, Seamus Dean, mais ça s'écrit S-E-A-M-U-S, qui incarne ce courant qui propose d'appliquer ou d'adapter en Irlande les problématiques et la méthodologie associée au postcolonialisme. J'y reviendrai tout à l'heure, il y a quelques ouvrages importants, notamment, je vous donne un titre ici, qui s'appelle « Nationalisme, colonialisme et littérature ». Alors, je vous le donne en français, mais le livre n'a pas été traduit, qui contient notamment une contribution d'Edward Said sur William Butler Yeats, le grand poète irlandais, comme grande figure d'un poète postcolonial, présenté comme tel. Alors, ces travaux, nous le verrons bientôt, dans la suite, ont contribué à une utile relecture du problème irlandais. Ils sont aussi au cœur des controverses historiographiques actuelles, notamment lorsqu'ils soutiennent que la condition de l'Irlande au XIXe siècle est par bien des aspects très comparable à celle d'autres possessions britanniques à travers le monde. Sur ce point, en particulier, j'en arrive à la deuxième perspective contemporaine, historienne, les historiens proches du courant, vous devez connaître ce nom, révisionniste, qui n'a rien à voir bien sûr avec les négationnistes français, des historiens proches de ce courant se montrent pour la plupart très sceptiques, ils préfèrent insister sur les limites de la dimension coloniale irlandaise. Un petit point sur le courant révisionniste en Irlande, loin de s'intéresser uniquement à cette dimension-là, c'est un courant majeur de l'historiographie irlandaise qui touche la plupart des champs de l'histoire, et ce depuis les années 1930. Ils ambitionnent de livrer un récit historique plus impartial, au sens où ils seraient émancipés du carcan imposé par ce qu'ils appellent la téléologie ou la mythologie nationaliste. Les révisionnistes, notamment leur chef de file actuel, le plus grand nom qui s'appelle donc Roy Foster, refusent notamment d'envisager l'histoire de l'Irlande uniquement comme celle d'une victime de l'impérialisme et du sectarisme protestant. Dans les années 1990, ces révisionnistes ont eu à essuyer de nombreuses critiques. J'ai mis aussi dans la bibliographie deux ouvrages qui font le point sur ces débats importants. On raille à l'époque, leur austérité clinique, je prends une citation, leur incapacité à prendre en considération les drames et les sacrifices irlandais, leur illusion de produire une histoire scientifique à distance des idéologies ou des analyses partisanes, ou encore leur lecture du passé trop favorable aux Anglais. Alors, dans la perspective qui est la nôtre, je retiens l'analyse la plus solide parmi les études de tendance révisionniste, c'est celle de Stephen Howe, Island and Empire, publié en 2000. Pour lui, la transposition mécanique du modèle postcolonial à l'Irlande est trop réductrice, excessivement schématique, et marquerait surtout le retour sous de nouveaux atours d'une historiographie nationaliste traditionnelle, finalement. Alors, les partisans et les opposants de la thèse de l'Irlande colonie s'affrontent sur plusieurs champs de bataille. dont je souhaiterais maintenant préciser quelques contours, préciser les principaux arguments des uns et des autres. Ce serait une façon d'illustrer l'ampleur du débat historiographique. On le verra aux ramifications politiques assez importantes, finalement, issues donc de ces problématiques sur le statut de l'Irlande. J'insisterai essentiellement sur la première dimension plutôt politique et la troisième plutôt culturelle. J'irai plus vite, faute de temps quand même, sur la dimension économique. Alors, la dimension politique. Le point de vue des défenseurs de la thèse de l'Irlande colonie. Dans un article paru dans un recueil très important, qui s'appelle « Was Ireland a colony ?», avec un point d'interrogation là aussi, mais en définitive, c'est plutôt, on défend la thèse effectivement de l'Irlande colonie, Peter Gray, un grand spécialiste de la famine, rappelle que l'intégration législative en 1801, donc l'Union, n'a rien changé au fonctionnement et à l'organisation de l'administration irlandaise. Toujours dominée par un vice-roi, qu'on appelle aussi un lord-lieutenant, chef de l'exécutif local et directement nommé subordonné à Londres, qui a tout en fait d'un gouverneur colonial. David Canadian, dans un livre qui s'appelle « Ornamentalism », en 2001, ajoute que ce modèle de l'exécutif irlandais type colonial aurait ensuite servi de prototype dans l'Empire, en particulier en Inde, où la vice-royauté instituée en 1876 reprendrait les bases du précédent irlandais. Deuxième argument à l'appui de cette thèse, pour les autorités, que ce soit les autorités irlandaises ou les autorités britanniques, les Irlandais demeurent une population distincte et une population à risque au XIXe siècle. Sur l'ensemble de la période, une police, et pour reprendre les termes des nationalistes, une armée d'occupation, donc, ont été déployées en Irlande dans des proportions inenvisageables ailleurs dans le Royaume-Uni. Par exemple, en 1881, 25 000 soldats stationnent en Irlande, à l'échelle de l'Empire même. Seule l'Inde fait mieux. Là encore, ce dispositif efficace, testé en Irlande, aurait ensuite inspiré bon nombre de dispositifs approchants, mis en place dans l'Empire et notamment en Inde. La réponse des révisionnistes. D'abord, la thèse du modèle policier irlandais reproduit jusqu'aux confins de l'Empire a été une première fois écornée par un historien qui s'appelle Richard Hawkins dans un article publié en 1991, où il explique que c'est pas si simple que ça. Ensuite, Stephen Howe donc, ajoute pour sa part qu'à l'échelle de l'Irlande, le contrôle politique et social de la métropole est loin d'avoir été aussi pesant et efficace qu'on le dit. Il considère que le rôle politique des Irlandais a été exagérément minimisé, alors qu'il était pourtant sans commune mesure avec celui d'autres populations à l'échelle du monde britannique. Là, il se replace à l'échelle du monde britannique, justement. Il souligne notamment, avec d'autres, que les Irlandais, dès lors qu'ils satisfaisaient aux conditions du cens, étaient électeurs, pouvaient prétendre à de très hautes fonctions administratives, un siège de député à Westminster à partir de 1829, à partir du moment où les catholiques ont été émancipés, au sens où ils ont été reconnus l'égalité des droits avec les protestants. Et donc ça leur permettait de jouer un rôle politique important, notamment de prendre part aux décisions majeures, en particulier sur l'Empire. L'auteur rappelle aussi que les lois pénales, les fameuses lois pénales du XVIIe et XVIIIe siècle, et les mesures coercitives qui l'accompagnaient, ont pour la plupart été abrogées dès la fin du XVIIIe siècle, instaurant ainsi, pour l'essentiel de la période qui nous concerne, une quasi-égalité des droits sur l'île, ce qui était loin d'être une réalité ailleurs dans l'Empire. Là encore. Vous voyez que déjà sur ce premier thème, il y a donc des débats importants qui se nouent entre ces deux perspectives. Les deux visions s'affrontent aussi sur le plan économique. L'Irlande, dans la vision post-colonialiste, on va dire, en Irlande, il y a une exploitation de type colonial. Il s'appuie notamment, dans les travaux appliqués à l'Irlande, donc sur la thèse, ce qu'on appelle la théorie de la dépendance, thèse développée après la Deuxième Guerre mondiale, qui est largement mobilisée pour expliquer la situation économique de l'Irlande. J'insiste pas là-dessus, parce que sinon, on n'aura pas le temps. La réponse des révisionnistes, c'est de dire qu'il ne faut pas, il ne faudrait pas surestimer l'arriération économique de l'Irlande au XIXe siècle. Notamment, c'est David Fitzpatrick, dans un article très intéressant, donc dans Oxford History of the British Empire, qui dialogue avec les deux écoles historiographiques, lui, et qui, sur la question économique, explique que quand même, il faut prendre en considération le fait que l'Irlande est le principal partenaire commercial de la Grande-Bretagne pendant toute la période de l'Union, et qu'ensuite, effectivement, d'après lui, l'image d'un territoire agricole sous-développé à proximité de l'Angleterre est à nuancer. Stephen Howe ajoute, lui, que la perspective postcolonialiste qu'il critique a tendance à aplanir les différences entre les formes de la domination économique en Irlande et les formes de la domination économique britannique dans le reste de l'Empire. J'en viens à la troisième dimension, qui est une dimension plus culturelle, et qui est sans doute du débat central et sans doute la plus investie par les chercheurs qui sont appliqués à démontrer la situation coloniale de l'Irlande au XIXe siècle. De nombreux travaux ont été menés qui soutiennent donc que le schéma classique de l'impérialisme culturel est bien à l'œuvre en Irlande, où la Grande-Bretagne n'a eu de cesse de vouloir imposer ses valeurs, ses normes, sa langue. Je prendrai qu'un seul exemple, le système national d'éducation primaire mis en place en 1831, qui est un système non confessionnel, ouvert à tous, et qui s'avère en fait, dans les faits, un outil d'assimilation culturelle et linguistique forcé, utilisé par les Britanniques. Les jeunes Irlandais apprennent à lire dans des livres en anglais, dans lesquels la Grande-Bretagne et son empire sont à l'honneur, mais dans lesquels vous ne trouvez quasiment pas trace de la géographie ou de l'histoire de l'Irlande. Tout cela est soigneusement évité. Un autre terrain déjà bien balisé par l'historiographie dès les années 70, on a entendu parler ce matin en parlant de l'immigration, c'est celui de la diffusion dans l'Angleterre victorienne de stéréotypes dégradants qui entretiennent l'idée d'une infériorité raciale irlandaise ou celtique par rapport à la race impériale britannique. Alors, le livre important, c'est un livre de Perry Curtis, paru au début des années 70, qui défend l'idée d'une racialisation des rapports entre la Grande-Bretagne et l'Irlande au XIXe siècle. Il prend plusieurs éléments. Alors, dans la presse populaire, notamment le magazine Punch, on a vu des extraits tout à l'heure, le développement de caricatures où l'Irlandais est représenté comme une créature mi-humaine, mi-singe. Il y en a plein. Vous avez aussi, il prend ici l'exemple des articles de la presse dite sérieuse, comme dans le Times, qui décrivent les Irlandais comme des barbares, unstable as water, par exemple, volubiles, incapables, réfractaires aux lumières, parce qu'ils sont papistes, etc., etc. Il relève aussi certains discours politiques. Le plus célèbre étant celui de Lord Salisbury, prononcé le 15 mai 1886, dans le cadre du débat sur le Home Rule, où le leader conservateur soutient que les Irlandais qui demandent donc l'autonomie ne sont pas plus aptes au self-government que les Hottentots, ou Hottentots, je ne sais pas trop comment on dit, d'Afrique. Donc une comparaison comme ça qui renvoie quand même à une hiérarchie raciale. Schématique, répond Roy Foster. Pour lui, l'application stricte du modèle colonial ne peut rendre compte sérieusement de la diversité des relations entretenues entre l'Irlande et l'Angleterre sur le long terme. Pour lui, les rapports vont bien au-delà d'un strict rapport de force à sens unique, dominant-dominé. Pour Foster, l'analyse nationaliste tend aussi à masquer la complexité de la société irlandaise, sa diversité culturelle et la richesse de ce qu'il appelle l'Irishness. On a parlé ce matin de la Britishness, mais il y a aussi l'Irishness. Fruit, d'après lui, d'un enrichissement mutuel, pluriséculaire et de l'apport des différentes communautés. Le même Foster, avec d'autres, Cherigan Gillay ou Stephen Fielding, a depuis plusieurs années aussi entamé un débat au long cours avec Perry Curtis sur cette affaire de la racialisation des rapports anglo-irlandais au XIXe siècle. Lui considère que ce n'est pas comparable avec ce qui a pu arriver pour les Africains ou les Asiatiques. Il considère que même si c'est formulé dans une rhétorique proche du racisme scientifique, l'hostilité anti-irlandaise donc, est essentiellement fondée sur des critères sociaux, politiques et religieux qui sont retraduits en termes raciaux. Et à bien y regarder, je le cite, la physionomie de l'Irlandais telle qu'il est représenté dans les caricatures n'est pas très éloignée de celle de la plèbe anglaise. À ce jour, le débat n'est pas clos et à vous de juger ainsi. Les arguments de Foster sur ce point-là sont aussi recevables que sur d'autres points où je pense qu'il est plus pertinent. J'en arrive à ma troisième point, puisque depuis une quinzaine d'années, un autre chantier a été ouvert, celui donc du rôle joué par les Irlandais dans l'Empire britannique. Et là encore, il y a débat, il y a controverse à ce niveau-là. Dans un ouvrage collectif pionnier que vous pouvez consulter, qu'on trouve en France, parfois, An Irish Empire, point d'interrogation. Vous voyez bien que le titre est, en lui-même est un brin provocateur. Bon, il y a le point d'interrogation quand même qui est là. Keith Jeffery nous invite à repenser la contribution des Irlandais à l'Empire. Il précise que par leur naissance, ces hommes et ces femmes sont associés à un territoire subordonné, certes, mais par leur action sur le terrain, ils ou elles ont souvent participé au développement de l'Empire. Alors, sur l'ensemble de la période de l'Union, 1801-1921, on estime, ou en tout cas, un peu plus que ce qui a été dit ce matin, que, d'après ce que j'ai pu lire moi, 8 millions, non pas 7, bon, 8 millions d'Irlandais auraient quitté leur île natale, en majorité vers les États-Unis pour plus de 5 millions, vers la Grande-Bretagne pour 1,5 million à peu près, et l'Empire aussi pour environ 1,5 million. Je tire mes chiffres des ouvrages qui sont dans la bibliographie. L'Empire a globalement fourni, ça c'est assez intéressant, a fourni de meilleures opportunités professionnelles aux Irlandais, en particulier en Australie et en Nouvelle-Zélande. Meilleures opportunités qu'aux États-Unis, pour les premières générations arrivant. Mais le voyage étant long et coûteux, a limité ces flux migratoires vers ces territoires australiens et néo-zélandais, sauf pour les candidats, on en a parlé ce matin aussi, qui ont pu bénéficier de subventions de l'État. Pour être complet, il faut aussi compter avec les militaires, les fonctionnaires impériaux qui sont en poste outre-mer et qui sont essentiellement là des hommes en nombre plus limité qui ont surtout vécu un exil temporaire. Alors plusieurs études récentes sur l'immigration irlandaise convergent qui postulent que la spécificité nationale des Irlandais installés dans l'Empire, une fois qu'ils sont installés dans l'Empire, a tendance à s'estomper là aussi. En d'autres termes, est-ce que l'Irishness est soluble dans l'Empire, comme on a pu le dire déjà depuis ce matin, pour ce qui est des Britanniques, des Anglais ou des Écossais? Alors, effectivement, loin des îles britanniques, le fossé qui les sépare des Britons semble s'être en partie comblé, et les préjugés anti-irlandais, s'ils ont perduré, sous une manière raciale ou pas, au Royaume-Uni, dès lors que l'on quitte les rivages du Royaume-Uni, on les voit s'atténuer au profit d'une solidarité « blanche », entre guillemets, qui se développe dans le contexte colonial où les Irlandais profitent, comme les Anglais, de leur supériorité, là pour le coup raciale. Où ils se tiennent, semble-t-il, plutôt à distance aussi, les Irlandais, des indigènes, des autochtones. Je prendrai un exemple relevé par un historien qui s'appelle Kevin Kenny, auteur aussi, qui a dirigé un ouvrage collectif très important aussi qui s'appelle Ireland and the British Empire en 2004, qui relate l'histoire de Udham Singh, je ne sais pas comment on prononce, un Sikh, qui assassine en 1940 un administrateur impérial à la retraite, Michael O'Dwyer, alors lui, irlandais, comme son nom l'indique. L'Irlandais qui a donc été tué là n'était manifestement pas perçu par l'auteur du coup de feu comme le représentant d'un peuple colonisé dont il pouvait se sentir solidaire, mais bien plus comme un agent de l'oppression blanche. Et en effet, le motif du crime, en effet, Singh reprochait à O'Dwyer d'avoir soutenu et approuvé le massacre d'Amritsar en 1919, alors qu'il était gouverneur du Pendjab lui-même. Il avait un peu écrasé l'affaire. La fusillade d'ailleurs de ce fameux massacre en 1919 avait d'ailleurs été ordonnée par un autre Irlandais, le brigadier général Dwyer, lui aussi. Vous voyez que ça se complique les affaires une fois qu'on est dans l'Empire. Alors jusqu'au début des années 90, on peine à trouver des travaux sérieux sur ces colonisés devenus colonisateurs au nom de la couronne. Alors un autre Irlandais avec un nom gaélique, donc Pirish, mais ça s'écrit Piaras McHenry, explique ce phénomène par la réticence des historiens irlandais, mais aussi des historiens qui ont des racines irlandaises, à se confronter avec cette désagréable réalité d'Irlandais colonisateurs, si vous voulez. Et c'est pourquoi, entre autres, il estime que la plupart des historiens qui ont travaillé sur l'immigration irlandaise ont choisi plus volontiers les États-Unis, l'immigration irlandaise aux États-Unis, où là, vous avez une bibliographie pléthorique. Et depuis les années 2000, quand même, plusieurs études se sont concentrées sur ces Irlandais qui ont, à leur niveau, participé à façonner les contours de l'Empire. Alors, quelques mots sur ces acteurs de l'aventure impériale. Alors, il y a quand même la masse des migrants ordinaires, ouvriers, paysans en quête d'une vie meilleure. Alors là, la contribution à l'Empire, elle est difficile à évaluer. Elle est plutôt indirecte, pas nécessairement consciente, on va dire. En revanche, l'engagement dans l'armée ou l'engagement dans l'administration impériale a constitué un réel vecteur de promotion sociale pour une minorité d'Irlandais. Je n'ai pas trouvé d'estimation quantitative, mais une minorité qui a servi l'English Rule outre-mer de façon plus ou moins zélée. Sans avoir, ça aussi c'est intéressant, sans avoir forcément à renier leur attachement à l'Irlande et ou leur soutien à la cause nationaliste. Les militaires, donc je reviens au parler, les militaires engagés dans les forces armées impériales ont activement participé aux conquêtes coloniales. Ils ont ensuite été très nombreux, ont participé au maintien de l'ordre dans les possessions britanniques. Les protestants étaient bien représentés parmi les officiers, notamment au sein de l'armée du Bengale. Vous avez aussi des grands noms. Wellington était irlandais, même si il disait, alors là je me souviens plus bien de la citation, mais c'est pas parce qu'on est dans une étable qu'on devient un cheval ou qu'on devient un bon cavalier, je ne sais plus exactement, pour dire à quel point il reniait son origine irlandaise, mais il était quand même irlandais. On peut encore citer le nom du célèbre, en France notamment, maréchal Kitchener, qui était lui-même originaire du Kerry, donc un Irlandais d'origine protestante. Aux grades inférieurs, vous retrouvez des Irlandais de souche plus modeste, en majorité des catholiques, pour lesquels l'engagement offrait une opportunité d'échapper à la pauvreté. Officiellement, les catholiques ont pu être admis dans l'armée britannique en 1799, pour donner quelques chiffres. Et ils sont devenus rapidement une composante importante. 2/5 de l'armée étaient composés d'Irlandais en 1840, avant de décroître ensuite. Décroître notamment parce que la proportion d'Irlandais dans le Royaume-Uni a décru, passant de 8,6 millions d'habitants en 1845 à 4,5 millions en 1900, liés notamment à la famine et à l'immigration. Au total aussi, les Irlandais représentaient près de 40% des militaires blancs en service en Inde au moment de la révolte des Sipahis. Et en général, ces Irlandais ont été plutôt bien vus, ils ont plutôt bien servi l'Empire. Avec quelques paradoxes, par exemple pendant la guerre des Bourgs, vous aviez des nationalistes irlandais des deux côtés qui se tiraient dessus. Vous avez aussi quelqu'un comme le colonel Arthur Lynch, irlandais né en Australie, qui fut successivement colonel dans l'armée Bourg, puis ensuite colonel dans l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale. Alors, hormis les militaires, vous avez donc très rapidement dans l'administration impériale aussi beaucoup, beaucoup d'Irlandais, notamment dans l'Indian Civil Service. Entre 1855 et 1863, le quart des entrants est originaire d'Irlande. Et les candidats bénéficiaient d'ailleurs de formations assurées dans les universités irlandaises à l'époque. Il y a même des commentateurs britanniques à l'époque qui se plaignaient de la trop forte proportion d'Irlandais dans l'administration impériale en Inde. On a parlé à l'époque d'un Irish Raj. Bon, il ne faut pas exagérer non plus. Il y a eu quatre vice-rois ou gouverneurs irlandais en Inde, mais globalement, la proportion dans l'Indian Civil Service décroît après 1850 et on ne compte plus que 12 200 Irlandais dans l'Empire, fonctionnaires irlandais dans l'Empire des Indes en 1911. Alors, pour finir sur cette dernière partie, puis après je conclurai, comment interpréter ces acquis récents de la recherche sur les Irlandais dans l'Empire ? En un sens, si vous voulez, ils apportent de l'eau au moulin de ceux qui soutiennent que l'Irlande n'était pas une colonie. Comment des Britanniques auraient pu laisser l'opportunité à des colonisés d'exercer une telle influence à l'échelle de l'Empire ? De devenir, pour reprendre une formule de Dennis Jude, des actionnaires minoritaires de la Great Britain Limited. Il est vrai, pour aller toujours dans le même sens, qu'on ressent une certaine gêne du côté des tenants de l'Irlande colonie à argumenter sur le sujet. Toutefois, si l'histoire de la participation des Irlandais à l'aventure coloniale a pu ébranler leur certitude, elle ne suffit pas, je crois, à balayer d'un revers de main l'ensemble de leurs conclusions. La situation de l'Irlande n'est certainement pas réductible à ces expériences impériales. Et en définitive, ce qui est le plus intéressant, je crois, dans cette perspective historiographique un peu neuve, c'est que ces expériences impériales nous offrent un exemple supplémentaire des ambiguïtés du statut de l'Irlande et des Irlandais au XIXe siècle à l'échelle du monde britannique. Les Irlandais ont ainsi pu être à la fois perçus comme des acteurs majeurs de l'essor impérial et en même temps comme une menace permanente de subversion. Les agitations, les soulèvements successifs qui jalonnent le long XIXe siècle irlandais sont là pour en témoigner. Et puis je terminerai en disant que les liens, les solidarités, même quand elles ont été éphémères, tissées par les nationalistes irlandais avec d'autres mouvements de résistance patriotique ou anti-impérialiste à travers l'Empire, ont fait l'objet de réévaluations récentes qui nous incitent à ne pas négliger ce qui serait l'autre versant de l'influence irlandaise dans l'Empire, c'est-à-dire l'exportation des techniques et des stratégies de résistance. Alors, dans ce domaine, les études croisées avec l'Inde notamment, alors je n'aurai pas le temps d'en parler ici, j'en ai mis certains dans la bibliographie aussi, sont véritablement éclairantes sur les rapports et les connexions qu'il y a pu y avoir entre l'Inde et l'Irlande. Pour conclure, si on repose la question de départ, est-ce que l'exposé permet de soutenir que l'Irlande a réellement été un cas à part dans le monde britannique au XIXe siècle ? Bon, c'est la question finale. On pourrait aisément objecter que chaque parcelle d'empire représente, après tout, un cas spécifique. Et il est clair qu'il ne faudrait pas parler d'un exceptionnalisme irlandais. Ça, ce serait évidemment exagéré. Mais quand même, l'ampleur des controverses que j'ai évoquées, mais les difficultés éprouvées par bien des spécialistes pour attribuer à l'Irlande et aux Irlandais une place, justement, dans les îles britanniques et a fortiori dans l'Empire, enfin dans le monde britannique, constituent, je crois, des indices de ce que j'appellerais alors à la fois une subordination spécifique, si on se passe à l'échelle de l'Inde, ou une intégration incomplète, si on se place à l'échelle du Royaume-Uni. Dans la hiérarchie impériale, l'Irlande était loin d'être l'égale de la Grande-Bretagne, évidemment ultra-dominatrice, mais sa situation n'était sans doute pas non plus assimilable à celle de l'Inde ou d'une autre possession. La proximité géographique, l'ancienneté des relations avec l'Angleterre, les formes particulières de la domination britannique, de la résistance irlandaise, les réformes successives, l'émigration, la complexité de la société irlandaise, tous ces éléments convergent, je crois, pour faire de l'Irlande un cas assez singulier quand même à l'échelle du monde britannique au XIXe siècle. Mais les débats, qui sont politiques autant qu'historiographiques, je crois, restent largement ouverts. Merci.
Il y a des questions ? Oui, il y a une question.
Oui ? Alors là, il faudrait qu'on reparte pour une bonne demi-heure. La question, je ne sais pas si tout le monde a entendu, quelle est la part de responsabilité du gouvernement britannique dans la grande famine irlandaise ? Alors, c'est une question, ça fait partie des débats qui opposent l'école, on va dire, nationaliste, historiographique et les révisionnistes, hein, au-delà de la question de l'Empire. C'est une question qui a été très largement débattue, qui l'est encore aujourd'hui. Vous avez des thèses là qui s'affrontent de manière terrible, hein, entre du point de vue, si vous voulez, vous pouvez prendre le point de vue des administrateurs britanniques à l'époque, notamment de Charles Trevelyan, qui pour lui estime que le maximum a été fait, qu'on ne pouvait pas faire plus. Et de l'autre côté, vous avez le point de vue de celui d'un nationaliste que je citais tout à l'heure, qui est John Mitchell, qui lui considère que la famine irlandaise est quasiment un génocide, hein, provoqué, induit par la Grande-Bretagne. La phrase très connue de Mitchell, c'est de dire « Dieu a apporté le mildiou, donc la maladie, mais ce sont les Britanniques qui ont créé la famine. » Alors voilà, vous avez dès le départ, deux interprétations comme ça opposées. Depuis les années 80 et 90, notamment au moment du 150e de la famine en 1995, vous avez eu un torrent de publications où toutes ces questions-là ont été retravaillées. Un des principaux ouvrages, c'est celui de Peter Gray, justement. Et vous avez un petit livre en français sur la grande famine dans la collection Découverte Gallimard, où il fait bien le point de Peter Gray, justement. Où lui, si vous voulez, aujourd'hui, on en est plutôt à estimer que c'est une négligence coupable, on va dire, c'est-à-dire une forte responsabilité britannique dans, effectivement, la façon de, non pas de ne pas du tout proposer de solution à la famine, mais en tout cas, soit d'y aller en reculant, soit d'arrêter des projets qui étaient mis en place, puis de les stopper, etc. etc. Donc il y a une part de responsabilité grande. Tony Blair, en 1995, a reconnu d'ailleurs, pour la première fois, la responsabilité des Anglais dans la famine en 1995, 150 ans après. Ah bon, je peux vous renvoyer aussi, j'ai un peu honte, mais un article là-dessus que j'ai écrit dans la revue historique, exactement sur ce point de vue-là, sur la famine et les interprétations historiographiques. Oui ? Ah oui, oui ? Enfin, oui, il y en a beaucoup. Alors, pour les Indiens, par exemple, alors, je n'ai pas pris la référence, je ne l'ai pas ici, mais en Inde, il y a deux formes de résistance irlandaise qui peuvent être intéressantes pour les Indiens. D'abord, il y a la résistance des autonomistes, donc du Home Rule, où il a été créé, alors là, je ne sais plus la date, mais au moment des débats sur l'autonomie de l'Irlande, il y a un Indian Home Rule qui a été, il y a une association qui a été créée en Inde. Je crois que vous retrouverez cette référence dans un article, voilà, de Chris Bailey, Island India in the Empire, un article que vous trouvez en ligne, hein, je crois qu'il est en ligne celui-là, de 2000, où c'est là que j'ai trouvé la référence à cette Indian Home Rule. Mais vous avez aussi, pour la période, plutôt le début du XXe siècle, les techniques apparemment, mais là je suis moins, il faudrait quand même retourner voir, il y a un ou deux ouvrages très récents qui reviennent sur l'intérêt pour les nationalistes indiens des pratiques du Sinn Féin, enfin des pratiques qu'on appelle aujourd'hui de terroristes ou paramilitaires. Donc vous voyez, il y a les deux axes qui sont utilisés. Et puis on pourrait, là j'extrapole un peu, mais les pratiques des grands meetings géants, des grands rassemblements géants initiés dans les années 1830-1840 par O'Connell, ont finalement une certaine postérité, on en trouve une certaine postérité en Inde, avec aussi Gandhi, tout simplement. Hein, pratique de l'agitation pacifique. Et, ah ouais, alors il y a aussi, me souffle Fabrice, merci, le boycott, la fameuse, alors je ne sais pas si c'est le moment de raconter l'anecdote, mais le mot boycott vient du fait que c'est donc le général Boycott qui était un protestant Home Rule, hein, c'est ça. Et donc les nationalistes catholiques avaient décidé de boycotter, c'est-à-dire de ne pas lui fournir de main-d'œuvre paysanne pour travailler sur ses terres. Donc le mot boycott vient de cela, hein, vient du fait que le général Boycott ou le colonel Boycott s'est retrouvé, le capitaine Boycott, dans les années 1880. L'acte d'union, si vous voulez, c'est le résultat non pas d'une main tendue à l'Irlande pour dire, voilà, vous êtes intégré, maintenant vous faites partie du Royaume-Uni, du centre, du cœur de l'Empire. C'est une réponse à une insurrection républicaine en 1798, l'insurrection des Irlandais unis, menée par Wolfstone, qui était lui-même citoyen français, puisqu'il avait participé, c'est un Irlandais. Hein. Et donc, il y a eu des tentatives de débarquement français en Irlande, notamment en 1796, puis en 1798, une insurrection, et pour avoir une main plus forte, pour maîtriser mieux, si vous voulez, ces Irlandais turbulents, on a décidé de faire en sorte que les représentants ne siègent plus à Dublin, mais soient directement à Londres, d'où la disparition du Parlement autonome. En 1799, au départ, ce sont les unionistes, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais qui étaient très opposés à ça, parce que le Parlement, c'était un Parlement anglican, qui était un Parlement qui leur... ils avaient quand même un certain nombre de pouvoirs, mais ils étaient bien conscients qu'un jour l'émancipation des catholiques ferait que ce Parlement deviendrait catholique, et donc négatif, ce serait pas favorable. Donc votre question, c'était autour du contexte là. Tout au long du XIXe siècle, le combat des nationalistes, j'ai peut-être pas bien dit, mais des nationalistes, des autonomistes, c'est la rupture, l'abrogation de l'Union. Donc c'est fondamental tout au long du siècle.
Est-ce qu'il y a des questions ou des...